Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Merci pour votre fidélité à nos podcasts. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver notre magazine en kiosque avec actuellement un numéro qui est consacré à la géopolitique de l'alimentation et puis un hors-série sur l'aviation militaire où nous nous interrogeons notamment sur la politique d'aviation et la politique européenne de demain. Mais cette semaine, nous allons partir à la découverte d'un pays inconnu ou méconnu du moins, un pays que l'on croit connaître puisqu'il s'agit des États-Unis. Alors on croit les connaître parce que nous vivons au rythme des États-Unis, nous regardons leurs films, nous écoutons leur musique, nous savons ou nous avons coutume de dire que ce qui se passe aux États-Unis arrive en France quelques temps plus tard. Et pourtant, nous oublions que les États-Unis s'écrivent au pluriel, qu'il y a 50 États, que c'est un continent qui est extrêmement varié et qu'entre un Américain de New York et un Américain de Floride ou un Américain du Minnesota, il y a de très grandes différences. Et finalement, nous avons du mal à comprendre ce que sont les États-Unis et nous avons aussi du mal à comprendre qui est l'actuel président des États-Unis d'Amérique. Et c'est dans ce pays méconnu que nous allons cette semaine avec mon invité Alexandre Mindel. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous avez publié plusieurs ouvrages et notamment votre dernier ouvrage qui vient de paraître chez l'Artilleur qui s'intitule « Chez Trump, 245 jours et 28 miles dans cette Amérique que les médias… » 1000 que dans cette Amérique que les médias ignorent. Vous êtes aux États-Unis, grâce à la technique, nous pouvons enregistrer cette émission par-delà l'océan Atlantique. Et peut-être première question, Alexandre Mindel, sur la question de Trump, justement. Depuis 4 ans, depuis les élections de 2016, en France, lorsqu'on présente Donald Trump, c'est toujours de manière négative, alors à tort ou à raison, mais finalement, on a beaucoup de mal à appréhender qui est réellement Donald Trump, si c'est quelqu'un qui a des idées ou si c'est uniquement un magnat de l'immobilier qui a réussi et qui se sert de son argent pour être président, s'il y a une idéologie trumpiste comme il y avait du réganisme en son temps, s'il y a des gens qui le suivent, est-ce qu'on peut donner comme ça un résumé, un aperçu de qui est Donald Trump, de ce qu'il veut, est-ce qu'il a une vision politique, est-ce qu'il souhaite quelque chose pour son pays au-delà du slogan de campagne de 2016 que l'on a vu fleurir sur des casquettes.
Oui, et qui était d'ailleurs, pour revenir au slogan de campagne, qui n'était d'ailleurs pas du tout de son cru, puisque c'était l'un des slogans de campagne de Ronald Reagan en 1980. Donc, Make America Great Again, c'est pas une nouveauté. C'est un slogan qui revient assez souvent en Amérique. Alors, vous me posez la question, qui est Trump? Est-ce que c'est un mania immobilier? D'abord, ici, aux États-Unis, il est rarement vu comme un mania immobilier, même si on voit dans certaines grandes villes ses complexes, comme à Chicago, en Floride, évidemment à New York. Ici, il est plutôt vu comme une star de la télé-réalité. Qui a percé tardivement en politique. Il est aussi vu un peu comme, mais ça c'est un trait aussi qu'on retrouvait aussi chez Reagan. Il est aussi vu comme un ex-démocrate. On a tendance à oublier ça, je pense, en France, mais dans les années 80, début des années 90, Donald Trump était un register démocrate, ce qui fait que finalement il a un long passé à gauche, ce qui était le cas aussi de Ronald Reagan. Ronald Reagan a longtemps été un démocrate avant de rejoindre le Parti républicain. Là s'arrête, je pense, un peu la comparaison avec Ronald Reagan. Ronald Reagan avait une vraie vision politique. Je pense que Trump est plus, et je ne vois pas ça forcément comme une mauvaise chose, c'est pas du tout péjoratif. Je pense que Trump est un opportuniste politique qui, en 2016, a abordé des thèmes qu'aucun autre candidat aux primaires républicaines n'osait aborder. Et j'irai plus loin, c'est-à-dire que ces thèmes de l'immigration, de la sécurité, de l'identité nationale, étaient des thèmes que les républicains s'interdisaient, y compris sous Reagan, d'aborder. C'est une très grande nouveauté qu'un candidat républicain ait fait de ces thèmes-là, et notamment du thème majeur, on a tendance ça aussi à l'oublier en France, de l'immigration. C'était le thème majeur en réalité en 2016, et c'est ça qui a fait gagner Trump en 2016, plus que l'économie et plus qu'autre chose. C'était des thèmes qui étaient abordés dans les débats des primaires républicaines. Si vous regardez les débats en 2000, alors en 2004, il n'y avait pas de primaire républicaine, et pour cause, puisque Bush était candidat à sa réélection. Mais si vous regardez en 2008, c'était des débats, c'est le thème de l'immigration et de l'identité nationale, y compris chez les républicains, n'était quasiment jamais abordé dans les primaires républicaines. Ou quand il était abordé, c'était pour dire, et c'était le cas de Reagan, de Bush père et de Bush fils, pour dire, mais nous sommes un pays d'immigration, il est normal d'accueillir des immigrants, etc. Trump est le premier à avoir dit, c'est formidable, il faut, les frontières c'est formidable, il faut, y compris jusqu'au symbole du mur, il faut construire un mur, protéger notre identité, protéger notre culture, protéger notre langue aussi. Et ça, c'était très nouveau chez Trump. Je ne sais pas ce qu'il subsistera alors, du Trumpisme, et ça dépendra aussi beaucoup du résultat de l'élection, s'il gagne ou s'il ne gagne pas. Bon, il y aura quelque chose qui subsistera du Trumpisme. Ces trois thèmes qui ont attiré vers les bureaux de vote des gens qui n'avaient pas voté depuis 20, 30 ans ou qui n'avaient jamais voté de leur vie. Donc c'est ces thèmes de sécurité, immigration, de protectionnisme économique étaient des thèmes qui n'étaient pas du tout abordés dans la droite américaine.
Et qui a voté pour Trump en 2016, qui pourrait voter pour Trump en 2020, est-ce que ce sont uniquement des hommes blancs de plus de 50 ans ou est-ce que c'est beaucoup plus large?
Oh, c'est évidemment plus large que ça, puisque le vote des femmes avait été relativement important aussi. On oublie de préciser quand même qu'en 2016, Trump avait, malgré ses frasques révélées tardivement dans la campagne, et notamment sa phrase de vestiaire, quoi. Enfin, je la répéterai pas ici. Bon, il faut attraper les femmes, pas. Enfin, je vous laisse compléter. Pas vraiment, j'ai l'impression, après avoir traversé autant d'États, il n'y a pas vraiment de modèle, mais ce que je retrouve, moi, ce sont des gens qui, encore une fois, craignaient pour leur identité. Dans mon livre, j'évoque souvent le fait que, je suis allé à plusieurs meetings de Trump, je suis allé faire aussi du porte-à-porte avec des Trumpistes. Très souvent, quand ils sont confrontés à un journaliste français, un journaliste européen, pour eux, par cette phrase qu'ils ne cessent de répéter, « Nous ne voulons pas devenir comme la France, nous ne voulons pas devenir comme l'Europe. » C'est-à-dire, nous ne voulons pas de frontières ouvertes, nous ne voulons pas perdre notre souveraineté, notre identité, notre sécurité, notre religion. Et à tort ou à raison, c'est comme ça qu'ils perçoivent la France. Alors, c'est souvent comme ça qu'ils perçoivent la France et l'Europe, notamment en regardant Fox News, qui grossit beaucoup le trait en ce qui nous concerne. Mais n'empêche que si je vois vraiment un vote, comment dire, un caractère commun parmi les électeurs, il y a ce rejet de la mondialisation heureuse.
Est-ce que ce sont que des blancs qui votent pour lui, des WASP, ou est-ce qu'il y a aussi
non.
des latinos et des noirs?
Il y a même des catholiques, c'est quand même, vous êtes dans un pays, enfin, l'Amérique est un pays qui compte pratiquement maintenant autant de catholiques que de protestants. Donc oui, il y a en effet des noirs qui avaient été déçus, j'en ai interrogé un certain nombre, des noirs qui avaient été déçus par Obama, je me souviens avoir interviewé une famille de noirs d'une banlieue assez chic, enfin, banlieue noire de Dallas pour Parce que on a tendance en France aussi à imaginer que les Noirs vivent forcément dans des ghettos. Non, c'est pas vrai. Il y a des banlieues assez cossues dans un certain nombre de villes où s'est installée une classe moyenne supérieure de personnes afro-américaines qui ont exactement les mêmes préoccupations économiques que des familles de blancs et qui remercient Trump d'avoir mis un peu plus, ça c'était avant le Covid-19, mais enfin, ça change pas grand-chose, d'avoir mis un peu plus d'argent dans le portefeuille. Ça, c'est vraiment la... Alors évidemment, tous les sondages le disent, hein, le vote noir, ce sera 90% pour le candidat démocrate. Il est faux d'imaginer que, évidemment, qu'il y a une minorité, 10% de Noirs qui voteront Trump parce que leur situation s'est améliorée. Et aussi parce que ils refusent aussi ce qu'ils appellent the government plantation, les plantations du gouvernement, c'est-à-dire ils refusent que d'être dépendants du Parti démocrate, c'est-à-dire d'être constamment nourri et séduit électoralement par ce qu'ils appellent the free stuff, c'est-à-dire les trucs gratuits, les allocations, les coupons de l'aide sociale, etc. Des latinos, bah, là, pour le coup, je rejoins un peu ce que disait Biden et qui avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, choqué quand il avait dit que la communauté latino-américaine est plus diverse que la communauté noire. Bah oui, c'est une réalité. Aux États-Unis, il n'y a pas grand-chose à voir entre, si ce n'est la religion, et encore, c'est pas tout à fait vrai, entre les Mexicains et les Cubains. Si vous allez voir les Cubains de Floride, ils voteront Trump. Ils ont une horreur du communisme, une horreur de la gauche, et un souvenir aussi qui est encore présent, y compris dans la jeune génération, même si tend à s'estomper, de l'échec du débarquement de la baie des cochons. Et ils en veulent beaucoup aux démocrates. Donc oui, ce sont des latinos, les Cubains de Floride, ils voteront Trump, la plupart, surtout les anciens. Ils sont conservateurs sur les sujets de société, mais pas autant que les Mexicains, par exemple sur l'avortement, le mariage homosexuel qui les révulse pour la plupart. En revanche, la communauté mexicaine, c'est là où je trouve qu'en effet, il y a peut-être plus de diversité dans la communauté latino que dans la communauté noire américaine. En revanche, les Mexicains sont attachés à davantage d'immigration, et peut-être aussi à davantage d'aide sociale, de construction de public housing, qui sont l'équivalent un peu des HLM français. Donc c'est vraiment, même si on ne peut pas dire est-ce que les latinos... En revanche, ça c'est vrai... Il a Trump, qui est pourtant celui qui, en 2016, disait lors d'un débat des je ne sais pas si vous vous souvenez, d'un débat des primaires républicaines, alors que Ted Cruz, Marco Rubio et Jeb Bush parlaient tous espagnol à un moment donné du débat pour montrer, pour pouvoir séduire. Trump est quand même celui qui dit, et évidemment, il ne connaît pas d'autres langues étrangères, mais c'est quand même celui qui disait « Non, désolé, je ne réponds pas en espagnol, parce que pour moi, la langue du pays, c'est la langue anglaise. » Trump est pourtant le candidat républicain qui fait les meilleurs scores chez les latinos depuis 30 ans. Et on a un peu tendance à l'oublier aussi que les latinos ne sont pas forcément unis par le simple fait qu'ils parlent espagnol. Les salvadoriens, qui sont très nombreux aux États-Unis, dans certaines régions du pays, où les Cubains, comme je vous disais, ne votent pas forcément comme les Mexicains ou les réfugiés argentins, etc. Il est évident que sur les questions de société, c'est le gros tabou. Un Mexicain qui votera démocrate, il se pincera le nez sur les termes, comme je vous disais, sur les thèmes de l'avortement et du mariage homosexuel. Mais ça ne l'empêchera pas d'aller voter démocrate.
Qu'est-ce qui fait... aujourd'hui l'unité des États-Unis? Qu'est-ce qui fait que dans toute cette diversité, les Noirs, les Latinos, les WASP, les catholiques, on se reconnaît comme Américain et donc comme ayant des liens en commun? Ou est-ce qu'il n'y a plus grand-chose en commun dans
Mais
ce
est-ce qu'il y a
pays?
déjà eu grand-chose en commun? C'est une vraie question. Pardon de vous interrompre. Hein,
Oui, non, non, mais c'est ça. Vous avez raison.
Moi, c'est une question. Je suis très embarrassé de vous répondre parce que c'est tout de même une question que beaucoup de sociologues spécialistes des États-Unis n'arrivent pas à répondre. C'est pour moi aussi. Évidemment, on les retrouve tous sur le canapé le dimanche soir du Super Bowl. Je peux répondre que par des exemples comme ça. Il y a tout de même une fierté d'être américain. Le 4 juillet est davantage célébré que le 14 juillet. Il faut voir ce que c'est que les feux. Et cela dans toutes les communautés. Vous avez des feux d'artifice. Tiré depuis, je vous dis, les quartiers noirs de Memphis, comme des quartiers chics WASP j'essaie de vous trouver un exemple de Dallas. C'est pas, il y a cette fierté du drapeau qu'on retrouve, je vous dis, accroché pratiquement à un tiers des maisons, qui tend un peu à disparaître. Je le note avec les événements récents, les émeutes raciales. On voit de plus en plus le drapeau Black Lives Matter sur les mâts. Vous savez, les Américains mettent souvent devant leur maison des mâts. Alors souvent, le drapeau américain est là pour l'année, mais de plus en plus de maisons, y compris chez les WASP, ont des drapeaux Black Lives Matter ou des drapeaux pour la justice sociale, etc. Bon, c'est vrai qu'en même temps, on est en campagne, donc les gens ont plutôt tendance aux États-Unis à afficher de façon assez libre leurs opinions politiques. Ce qui fait peut-être la fierté des Américains, ou plutôt le ciment national, c'est peut-être la fierté d'être un pays jeune, ayant réussi. En tout cas, dans la mythologie américaine, c'est comme ça qu'ils se voient. Ils n'ont pas tout à fait tort. Ça reste la première puissance militaire, et de très loin, la première puissance diplomatique, la première puissance financière. Les gens, même s'ils ont du mal à exprimer ça, d'un état à un autre, ont tout de même ce sentiment aussi d'être, à tort ou à raison, le pays le plus libre au monde. Pour eux, c'est comme ça qu'un Américain se verra comme ça. Il a le sentiment, peut-être moins vrai aujourd'hui avec l'actualité, d'être dans le pays le plus libre du monde, parce que c'est la mythologie américaine qui, pour le coup, a traversé les communautés, les différences sociales, c'est ça. Mais, encore une fois, j'ai du mal à répondre à cette question. Ce qui fait leur unité, c'est une unité qui existe en temps de guerre. C'est vrai que, y compris pendant, et pourtant maintenant il a, sous Trump en tout cas, ils en débattent assez librement, ce qu'ils ne faisaient pas en 2003, en Irak, la guerre de George W. Bush était populaire parmi toutes les couches de la population. Hein. C'était très, à l'époque, hein, c'était très, marginal. La contestation de cette guerre était très marginale. Chaque fois que le pays est impliqué finalement dans un conflit, il tend à faire ciment. Chose qui ne s'est pas passée finalement sous Trump, puisque en 4 ans, il n'y a pas eu de nouveaux conflits. Donc, c'est peut-être bien le regret de John Bolton qui a été. Et peut-être que finalement, Trump stratégiquement aurait dû aller bombarder l'Iran, et il serait peut-être en tête des sondages aujourd'hui. Je dis ça évidemment en rigolant, hein. C'est très caricatural ce que je vous dis, mais ce ciment de l'Amérique triomphante a peut-être manqué finalement
En revanche, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump est le seul président depuis quasiment la Seconde Guerre mondiale à n'avoir fait aucune opération extérieure d'envergure et de n'avoir déclaré aucune guerre.
Ben, vous oubliez Nixon, quand même.
Alors Nixon a résolu la guerre du Vietnam, il a dépatouillé avec.
Il n'est pas allé, oui. Enfin, est-ce qu'il a résolu, ou je ne sais pas s'il s'en est dépatouillé comme il pouvait, puisque c'était son thème de campagne, hein, par rapport aux démocrates. Mais justement, sur la politique étrangère, beaucoup de gens le comparent à Nixon, hein, qui était allé serrer la main de... Évidemment, avec des arrière-pensées politiques, hein, de Mao Tse-tung. Les images de Trump allant voir Kim Jong-un ont tout de suite rappelé à l'Amérique ce que Nixon et Kissinger faisaient à l'époque. Bon, il a ce côté non-interventionniste. C'est pas tout à fait vrai. Il a quand même, notamment au Pakistan, utilisé beaucoup les drones. Il fait pas mal de morts là-bas. Et ça, on a tendance peut-être à l'oublier en France. Chez les Trumpistes, comment dire, exaltés, qui pensent qu'il n'a jamais fait d'intervention. Il est quand même intervenu aussi en Syrie. Il y a quand même, c'est vrai, chez lui, ce côté, vous savez, la doctrine Monroe, le président James Monroe, c'est-à-dire, bon, l'Europe, occupez-vous de vos oignons. Je résume ça, et nous garderons, à l'époque, c'était l'Amérique du Sud, notre sphère d'influence. On a beaucoup vu ça avec Trump sur, notamment sur l'OTAN, sur sa façon comment dire, déplacer les soldats d'Allemagne vers la Pologne. C'est plutôt mal vu aux États-Unis, où l'Allemagne est vue quand même comme un allié précieux. Je ne pense pas, vous me posiez au début de l'émission la question de savoir s'il y avait une doctrine Trump. Moi, je pense que, en tout cas, je crois sincère là-dessus, Trump n'a pas envie de... Comment dire ? Il a vu ce qui s'est passé avec ses prédécesseurs. Il sait sans doute ce que c'est que de voir, vous savez, ces cercueils qui reviennent avec les drapeaux américains sur le tarmac de la base Andrews dans le Maryland, voisin de Washington. Il sait exactement ce que ça peut lui coûter en termes d'image. Donc Trump, c'est quelqu'un, comme je vous dis, d'opportuniste politiquement. Il en a marre aussi... comme beaucoup d'Américains, de la guerre en Irak et en Afghanistan spécialement, pardon, en Afghanistan, est considérée comme ces fameuses « endless wars », ces guerres sans fin qui coûtent un pognon fou aux contribuables américains. Et il voit ça surtout comme une perte de temps, une perte d'argent. Et ça, c'est peut-être son côté businessman, que ça profite au reste du monde. Je vais vous dire, on le voit, Trump est allé 4 fois en France. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de grosses manifestations contre Trump, contrairement à ce qu'il y avait contre George W. Bush. Parce que finalement, Trump, y compris aux yeux de la gauche européenne et française, n'est plus tellement perçu comme le « policeman of the world », le gendarme du monde. Et... on le regrettera peut-être si Biden est président. Il est évident que les démocrates sont beaucoup plus interventionnistes que les républicains d'aujourd'hui. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire les républicains d'aujourd'hui? Si Trump était demain remplacé par, j'y crois pas un instant, mais par, disons dans la course à 2024, par quelqu'un comme Jeb Bush, bah on reverrait les vieilles badernes du néoconservatisme qui veulent absolument faire bombarder le Moyen-Orient, en finir avec la Russie de Poutine. Bon, il est évident que sous Trump, il y a une longue période, c'est long, c'est vrai, chez les Américains, 4 ans sans nouvelle intervention. Est-ce que ça, c'est une doctrine Trump? Je ne sais pas si c'est sa doctrine, mais en tout cas, c'est ce qu'il laissera au bout de 4 ans.
Richard Nixon avait Henry Kissinger avec lui, qui a joué un rôle fondamental. Quelles sont les personnes importantes dans l'entourage de Trump? On l'a vu qu'il s'est fâché avec Steve Bannon, il s'est fâché
Oui.
avec Bolton. On a l'impression qu'il s'est fâché un peu avec tout le monde. Est-ce qu'il a autour de lui, hormis Mike Pence, son vice-président,
Mais même
des
Mike
gens
Pence,
qui...
rien. Mais enfin, il sert à lui attirer quelques voix évangéliques encore. Est-ce qu'il. Pardon de vous interrompre encore une fois. Trump est aujourd'hui, en 2020, très différent. Alors, il tient le même discours qu'en 2016. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé dans ses meetings, presque à la ligne près. Il n'a pas changé. C'est les fameux discours là, de Brebes, qui était le Brebes. Qui était le président du Parti républicain, et qui lui avait fait son élection, avec qui il s'est fâché, puis de son stratège Bannon. Il a viré tous ces gens-là, il se retrouve seul, et je pense que d'ailleurs, le fait de se retrouver seul à ce point-là fait que toutes les erreurs qu'il est en train de commettre, notamment sur le Covid-19, tous ces trucs qui, quand même, choquent. Choque un certain nombre d'Américains, chez les indépendants, les modérés, je pense que ça n'aurait pas été commis il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on lui confisquait, c'est une image évidemment, mais régulièrement, son fil Twitter pour pas que, à 2 semaines des élections, il dérape. Et aujourd'hui, Trump est complètement en roue libre. Il s'est mis en tête que. Il pouvait faire ça tout seul. Et il s'est mis surtout en tête de ne faire qu'une fanbase, qui de toute façon lui pardonnera tout. Trump, en effet, a viré, et notamment Bolton, mais bon, Bolton, le processus électoral américain, il aurait servi à rien. Mais le fait qu'il ait viré aussi, je cherche, bon, il n'est pas viré, mais Conway, y compris Kellyanne Conway, elle est partie, bon, dit-elle, pour des raisons familiales. Tous ceux qui avaient contribué, de près ou de loin, au succès de sa campagne et qu'il avait fait monter sur l'estrade, le soir de sa victoire, à New York, ont disparu, littéralement. Il ne reste plus que Ivanka Trump, Jared Kushner, qui sont pas les plus grands, et en plus qui sont pas appréciés des Américains. Donc, parce que les Américains n'aiment pas le népotisme. Donc ça, c'est une erreur, je pense, fatale de Trump 2020, de s'être entouré finalement d'Ivanka Trump, de son gendre, et d'avoir dégagé systématiquement les gens qui lui disaient de peut-être mettre un peu d'eau dans son vin, même si lui, il boit pas de vin. Donc, voilà, moi, ce que
Dans
je
votre
dirais.
ouvrage, Alexandre Mandel, vous consacrez un chapitre sur le mur entre le Mexique. On va y revenir parce que ça a été un des thèmes de campagne de 2016. Et on a fait de ce mur un peu un des symboles de
Oui.
Trump, alors même que le mur lui est antérieur, il a été commencé sous Clinton et poursuivi sous Obama. Donc c'est un petit peu quelque chose qui transcende, enfin qui moi semble transcender les candidats et les élections, cette question du mur.
Oui, mais personne s'en était servi à l'époque comme un argument électoral. Moi, je vous mets au défi de trouver enfin, peut-être ça existe, mais un Clinton en 92, disant pendant sa campagne, je vous construirai un mur à la frontière avec le Mexique, et qui plus est, le Mexique paiera pour le mur. Et jamais personne n'en avait fait un argument de campagne. Bon, en plus, le mur, c'est vrai moi je dirais plutôt Bush, George W. Bush, puis Obama, c'était un mur qui était construit de telle manière qu'à certains endroits, vous aviez des grandes ouvertures, parce que c'était compliqué aussi sur place pour des raisons topographiques de construire un mur. J'en parle dans le bouquin parce que, alors ça m'a frappé, puis j'étais récemment en plus à Brownsville, en reportage pour Valeurs Actuelles, même les républicains sur place vous expliquent que ça sert à rien, que de toute façon l'immigration illégale, c'est un Mexicain qui reste au-delà de son visa, ou qui vient dans un camion. Mais enfin, l'idée de traverser le Rio Grande, c'est vraiment très minime dans l'immigration illégale. Et puis en plus, quand il le traverse, maintenant il le traverse par des tunnels. Donc le mur est complètement inutile. Et ça. Et puis en plus, parlons-en en termes de bilan. Il se félicite d'avoir construit, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il me semble que c'est 265 miles de nouveaux murs, quelques 500 km. Mais en réalité, il s'agit surtout d'avoir retapé du mur existant. Des pans de murs nouveaux, il en existe que 10 km, peut-être de vraiment de nouveaux murs. Au point que certains de ses partisans ont construit un mur privé à la frontière entre Brownsville et Matamoros, en levant des fonds privés, mur qui est d'ailleurs déjà en train de s'écrouler du fait de la corrosion. Mais c'est très intéressant parce que c'est un symbole très fort, mais qui ne s'adresse pas aux gens vivant près des frontières. C'est un symbole très fort pour l'habitant de l'Iowa ou du Nebraska, qui n'est pas confronté à l'immigration illégale, mais qui le soir, encore une fois, quand il regarde les infos, notamment sur Fox News, se dit, j'ai pas envie de voir des membres du gang MS-13 dans mon jardin, etc. C'était un symbole très fort pour des gens qui ne sont pas concernés. C'était encore une fois, là aussi, le génie de 2016 de Trump a été de parler d'immigration. C'est évident qu'il a saisi ce thème-là parce que c'était un thème qui était abordé par personne et certainement pas par ses prédécesseurs républicains. Ni George W. Bush, ni même Reagan. Reagan avait légalisé des centaines de milliers de personnes. Il n'y a pas que Mitterrand, en arrivant au pouvoir, finalement, au début des années 80, qui avait légalisé beaucoup d'immigrés illégaux. C'était quelque chose qui posait pas de problème aux États-Unis, à l'époque, en tout cas. Mais peut-être que l'Amérique se pose des questions quand elle va. Quand l'habitant de l'Iowa ou du Nebraska débarque en Arizona, dans le sud du Texas, ou en Californie, et qui voit des gens qui ne parlent qu'espagnol et qui ne parlent pas un mot d'anglais, on peut comprendre que ça lui fasse un peu peur pour son identité. C'est là que le mur n'est qu'un symbole, parce que de toute façon, ça n'empêche pas l'Amérique de. Celui qui déportait le plus, d'ailleurs, d'immigrants, c'est Obama. On ne l'appelait pas de déporteur in chief pour rien.
Comme quoi la réalité est souvent assez différente des
Oui,
symboles qu'on a ou des...
même Trump, mais elle est nuancée, disons, la réalité. Parce que finalement, Trump a aussi quand même un bon bilan aussi en termes d'immigration. Il a fait baisser énormément le nombre de demandeurs d'asile. Enfin, en tout cas, il n'accorde plus autant l'asile aussi facilement que l'Amérique l'accordait. Il a aussi nommé beaucoup de juges fédéraux pour changer la jurisprudence sur l'immigration, puisque de toute façon, après les midterms, il ne pouvait pas faire voter des lois, disons, de fermes sur l'immigration. Mais Obama n'avait pas un si mauvais bilan que ça. Dire qu'Obama avait ouvert les frontières, c'est faux. Dire que Trump n'est qu'un salaud sur l'immigration, c'est faux aussi. La réalité là-dessus est très nuancée. Trump n'est pas le salaud que la gauche décrit, et Obama n'est pas là-dessus le open border que la droite hystérique décrit. C'est beaucoup plus nuancé que ça. D'autant que, comme je vous dis, c'est les juges fédéraux aux États-Unis qui font la loi sur l'immigration. C'est eux qui décident. Demandez à n'importe quel avocat spécialiste en droit de l'immigration aux États-Unis, et il y a des centaines de cabinets d'avocats tout le long de la frontière entre les États-Unis et l'Amérique, c'est dingue. Et ils vous diront que leur boulot consiste le matin à regarder la nouvelle jurisprudence des juges fédéraux sur l'immigration, parce que ça change de jour en jour et ça a beaucoup changé avec Trump. Donc, il a été plus efficace là-dessus, Trump, en nommant de nouveaux juges fédéraux, finalement, qu'en allant construire 10 kilomètres de plus de murs, quoi.
Justement, ça c'est un sujet qui est extrêmement important parce qu'on ne le perçoit pas du tout en France. C'est l'importance notamment de la décentralisation des États-Unis, le fait que les gouverneurs ont des pouvoirs que n'a pas l'État central, et c'est aussi le fait que c'est un État qui est extrêmement judiciarisé. Donc là, on s'est beaucoup focalisé sur la Cour suprême parce qu'il y a un juge qui est mort et qu'il y en a une autre qui a été
Ça, c'est une importance
prénommée.
capitale. Oui, c'est. Oui, pardon,
Mais effectivement, cette question des juges, Cour suprême et juge fédéral, c'est probablement l'héritage le plus important que laissera Trump, qu'il soit ou non réélu le 3 novembre, parce que
Oui.
ces juges-là, ils vont rester pendant plusieurs décennies.
Oui, en tout cas, à la Cour suprême. Parce que les juges fédéraux, c'est beaucoup plus facile de les déplacer. Mais la Cour suprême sont nommés à vie. Donc, alors ça, c'est. Bon, je reviens sur la mort de Ruth Ginsburg. Ça a été un tremblement de terre dans la campagne. Même si tout le monde s'y attendait. Et en plus, on a vraiment du mal en Europe, en France, à percevoir à quel point. Si l'avortement est légal aux États-Unis, et encore que ça dépend d'un État à un autre, c'est à cause ou grâce, selon qu'on soit pro ou anti-avortement, de la Cour suprême. C'est quand même grâce à ces juges qui ont un pouvoir énorme, parce que c'est un pays, ça reste un pays de common law, l'Amérique, et ce sont les juges. Avec leur jurisprudence et la Cour suprême qui font la loi littéralement aux États-Unis. Donc, si vous nommez, si vous êtes sûr d'avoir sécurisé la Cour suprême, ben, tout ce qui est question de société comme le port d'armes, l'avortement, le mariage homosexuel et l'immigration, ce sont des sujets qui, pendant les 20 ou 30 prochaines années, Kavanaugh doit avoir un peu plus de 50 ans, Barrett, elle doit avoir, si mes souvenirs sont bons, 47 ou 48 ans, donc avec l'espérance de vie. Oui, vous avez une cour suprême assez jeune. Trump a eu une occasion incroyable de nommer trois nouveaux juges à la Cour suprême, et c'est moi ce que j'appelle le cadeau de départ de Trump, si jamais il n'est pas réélu. Qui risque quand même d'arriver, vu les sondages qui sont très 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 mauvais, bien pire qu'en 2016. Ce qui fait dire à pas mal de républicains en ce moment, moi j'ai vu des républicains qui étaient quand même pas rassurés par l'idée que Biden puisse être élu, en tout cas l'idée que Trump puisse perdre. J'ai vu pas mal de gens réellement politiquement soulagés d'avoir une Cour suprême qui soit sécurisée. À droite et qui ait des opinions conservatrices, voire très conservatrices sur les thèmes de société. Au point que ça risque même peut-être de démobiliser un certain nombre, vous savez, d'électeurs de Trump qui n'apprécient pas son côté provocant, son attitude, sa grossièreté parfois, et qui allaient voter pour lui en se pinçant le nez, en pensant justement à ces questions de société. Je ne suis pas sûr que si ça avait été encore un argument de campagne, ça aurait pu mobiliser un certain nombre de personnes en plus pour son élection. Là, le cadeau de départ est peut-être intervenu un peu trop tôt. D'un point de vue stratégique, je dirais que ce n'est pas forcément une bonne chose. Moi, je ne pensais pas que ça arriverait aussitôt. Je pensais que ça allait vraiment être un débat de campagne. Non, non. Il nomme rapidement, les auditions ont lieu au Sénat, et puis elle sera nommée, il n'y a pas de raison, ils ont déjà fait leurs calculs. Mais on ne se rend pas compte, oui, en effet, du pouvoir, du check and balance, finalement. Tous les pouvoirs ont à peu près l'exécutif, le législatif et le judiciaire ont exactement la même force dans leur domaine respectif, ce qui n'est pas le cas en France. Et en France aussi, il y a la séparation des pouvoirs, mais ce n'est pas un tiers, un tiers, un tiers. Ben, quand aux États-Unis, vous sécurisez pendant 30 ans le pouvoir judiciaire suprême, Et c'est comme si vous sécurisiez l'Assemblée nationale en France pendant 30 ans. C'est dingue, mais c'est comme ça que c'est vu, hein. Et parce que c'est la réalité. La réalité d'une institution qui peut défaire une loi. Et vous savez qu'aux États-Unis, c'est pas comme en France, quand le Conseil constitutionnel retoque une loi, bon, et qui, pour des exceptions d'inconstitutionnalité, vous pouvez toujours vous arranger pour amender la Constitution, ce qui est relativement facile en France. Aux États-Unis, pour changer la Constitution, qui est vraiment un texte quasiment immuable, accrochez-vous, hein, c'est compliqué, quoi.
C'est
Donc,
sacré, ou la Constitution, c'est leur...
oh oui, c'est sacré, c'est la Bible, c'est la Bible. S'il y a deux choses qu'on vous cite, c'est la Bible et la Constitution.
voudrais revenir pour cette fin d'émission sur le mouvement Black Lives Matter, parce que on a vu beaucoup d'images à la télévision, on l'a vu aussi arriver en France de manière un peu surprenante, parce qu'on pourrait dire qu'après tout, c'était quelque chose qui était uniquement un... Sur ce mouvement-là, vu vous êtes aux États-Unis depuis plusieurs années, vous avez donc vu les choses de l'intérieur. Est-ce que c'était un mouvement qui était complètement spontané ou, alors évidemment, il s'inscrit aussi dans la campagne électorale, donc forcément, il est utilisé par un camp ou par un autre. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a surgi à ce moment-là et par exemple pas pendant le mandat d'Obama où il y a eu
Ah.
aussi des bavures policières? C'est pas quelque
Oui.
chose de nouveau, les bavures policières. Pourquoi est-ce que là, ça a cristallisé?
Ben vous avez la réponse, elle est dans votre question. Parce que c'était Obama. Et oui. Et donc, les démocrates n'ont pas surfé à l'époque sur les bavures policières, et il y en a eu un certain nombre, d'aussi grande importance, voire davantage, que l'affaire George Floyd. C'est malheureux à dire, c'est une récupération politique lamentable des démocrates en pleine. Ça, c'est pas du conspirationnisme, hein. Enfin, faut vraiment être neuneux pour pas voir le fond du problème, a été cette récupération atroce faite par la gauche américaine avec évidemment une arrière-pensée électorale, mais qui pour le coup était mal géré par les démocrates, parce que ça commence à vraiment fatiguer les Américains, cette idée que on puisse comme ça. Alors je suis actuellement à Louisville dans le Kentucky, mais enfin dans plusieurs jours je serai ailleurs, etc. Mais enfin, Louisville, une ville d'ordinaire tranquille, où vous avez depuis maintenant 3 mois, des rues entièrement bloquées, des commerçants qui ne peuvent pas travailler. Ça plaît peut-être à l'électorat démocrate qui aime bien se culpabiliser, mais dans les banlieues, et Trump a besoin du vote des banlieues, dans les banlieues semi-urbaines, semi-rurales, les gens ne veulent pas de ça chez eux. Ils ne veulent pas du foutoir, ils ne veulent pas du chaos. Oui, il n'y avait pas ça sous Obama, parce que Obama représentait, en tout cas dans l'imaginaire démocrate, parce que c'est plus compliqué chez les électeurs, y compris de la communauté noire américaine, qui n'a jamais perçu Obama comme un Afro-Américain. C'est-à-dire que Obama n'est pas un descendant d'esclaves. Obama, c'est le fils d'un professeur riche du Kenya qui a épousé une Américaine. Mais enfin, c'est vrai que les démocrates n'auraient jamais utilisé ça sous Obama, parce qu'il était noir. Mais Obama, c'est ça que c'est vraiment intéressant, ça, parce que c'est pas quelque chose que. Enfin, c'est quelque chose que j'entends, y compris de la bouche d'Afro-Américains, hein, qui disent, mais Obama, il était pas noir. Je suis désolé de parler comme ça. En tout cas, il n'était pas Afro-Américain. C'est-à-dire, ce n'était pas un descendant d'esclaves. C'était un fils d'immigré, mais pas un descendant d'esclaves. Mais pour les démocrates, très bien, c'était à l'époque, c'était formidable. Il n'y avait plus de racisme sous Obama. Si vous écoutez les démocrates, c'est incroyable, la réécriture de l'histoire, parce qu'Obama avait une couleur de peau qui leur a servi. Finalement, les vrais racistes dans cette histoire-là, ce sont les démocrates, ce sont pas les républicains. De toute façon, historiquement, les démocrates n'ont pas non plus sont pas à l'épreuve, à l'épreuve des faits historiques, sont pas les meilleurs antiracistes qui soient, hein, les démocrates.
Oui, parce que les fondateurs du Parti républicain sont les anti-esclavagistes,
Bah, bien
notamment
sûr,
Abraham Lincoln.
mais bien sûr. Et puis, on nous casse les pieds avec, en nous parlant des démocrates et des droits civiques. Mais ça avait été. C'est Eisenhower qui a commencé avec avec les droits civiques. Et ce sont les démocrates qui bloquaient les droits civiques. Et ce sont les démocrates, les fameux démocrates du Sud, les Dixiecrates, qui ont empêché les Noirs jusque dans les années 60 d'aller s'inscrire à l'université, ou ne serait-ce que de prendre un bus. Donc, et ça aussi, c'est une distorsion des faits qui est très européenne. Les républicains sont des salauds, et en particulier Trump, et les démocrates sont des gentils depuis Johnson, et puis spécialement depuis Obama. Mais Obama, il en a rien à... Pardon, mais il n'en a peut-être pas rien à faire des Afro-Américains, mais lui-même n'en est pas un. Donc,
C'est
en
pas
tout cas,
son histoire, oui.
Pas plus que Trump. Pas plus que Trump, en tout cas. Et la réalité, elle est aussi que le pouvoir d'achat des Noirs américains s'est tout de même amélioré sous Trump, de façon historiquement, comment dire, haute. C'était pas le cas sous Obama, donc tirer sur Trump en disant c'est un raciste, etc., c'est absolument dégueulasse de la part du Parti démocrate, sachant que tous ces événements, l'affaire Breonna à Louisville, l'affaire George Floyd à Minneapolis et d'autres affaires, sont toujours le fait de police gérée par des villes démocrates. Mais vous ne verrez pas les Black Lives Matter demander des comptes au Parti démocrate, puisque ceux-là même sont manipulés, et pardon de le dire, mais là aussi ce n'est pas du complot, financés par les démocrates. Mais ça, c'est extrêmement tabou de le dire en France comme aux États-Unis. Mais c'est pourtant. Encore une fois, si Trump gagne l'élection, je n'y crois pas trop, en tout cas. Au moment où on enregistre cette émission, j'y crois pas trop, mais ça peut changer. C'est une éternité, hein, en politique américaine, hein, 20 jours. Mais je dirais quand même que Trump va pas trop souffrir de ce qui s'est passé dans les grandes villes, puisque de toute façon, il n'allait pas gagner dans les grandes villes. Et ce qui se passe, le chaos qui se passe dans certaines grandes villes, déplaît quand même à l'électeur indépendant et modéré. Dont il a besoin des voix. Je crois pas que ce soit finalement en sa défaveur, même si c'est lamentable de voir cette récupération politique, comme on commence à la voir d'ailleurs en France. C'est pareil, quoi. J'ai vu ça, moi, des États-Unis, ce qui se passait avec l'affaire Traoré, et ça m'écœurait aussi de voir cette récupération de faits lointains aux États-Unis. L'Amérique a une histoire extrêmement différente, pour ce qui est de sa communauté noire, de notre histoire avec nos immigrés, etc. Et les immigrés qui ont choisi de s'installer en France ont choisi d'eux-mêmes de s'installer en France, ce qui n'est pas le cas, évidemment, des Noirs américains, disons des descendants, ce qu'on appelle les Afro-Américains, c'est-à-dire des descendants d'esclaves. Et voir cette récupération en France, à coup de même slogan transposé des États-Unis vers la France, ben c'est d'autant plus stupide que ce ne sont pas du tout les mêmes histoires. Il y a une police nationale en France, il y a plusieurs polices aux États-Unis, plusieurs polices locales, le plus souvent gérées par la gauche d'ailleurs. Donc, ça m'a paru...
Merci.
Voilà.
Merci beaucoup, Alexandre Mandel, d'avoir évoqué
Merci.
Pour nous cette Amérique de Trump. Je rappelle que l'émission est enregistrée le 12 octobre, donc nous sommes à 3 semaines
oui.
de l'élection présidentielle. Effectivement, il peut se passer beaucoup de choses
oui,
en à peu près 3 semaines. Et on verra le 3 novembre, même un peu plus tard, parce qu'avec le vote par correspondance, peut-être que nous n'aurons pas les résultats le 3 novembre, d'ailleurs.
Oui. Ça, c'est un des risques, d'ailleurs. On risque de... En fait, tout le monde pense qu'on connaîtra le résultat le 3 novembre, on connaîtra le vainqueur le 3 novembre, mais on n'aura pas le résultat avant plusieurs semaines.
C'est comme lors de l'élection de 2000, où il y avait eu cette course là autour de la Floride pendant plusieurs semaines entre Bush et Al Gore.
Sauf que là, ça risque d'être le cas dans plusieurs États. Donc imaginez une course, comment dire, ils ont une contestation dans plusieurs États avec bagarre d'avocats, on pourrait avoir le résultat décembre, mi-décembre, enfin ça va être, sauf raz-de-marée dans un sens ou dans un autre, auquel je ne crois pas. Donc,
Eh bien, nous verrons. Voilà. Ça sera les joies aussi de la géopolitique, c'est de vivre au fur et à mesure les événements. Je rappelle votre ouvrage chez Trump, qui est paru à l'édition L'Artilleur, Alexandre Mendel. Donc, toutes les références de l'ouvrage sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Puis, encore une fois, pour nous soutenir et eh bien diffuser ces émissions, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous en remercie. Et puis, abonnez-vous aussi. Vous avez tous les éléments des abonnements sur le site internet de Conflit. Vous abonner, c'est la meilleure manière de soutenir Conflit et de permettre que ces émissions podcast et télévision continuent à être produites. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle émission.